Le journal Yves Decamp.
Bonjour. Il n'y aura pas de trêve pour Noël au 8e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. La CGT Cheminots prévient que le mouvement se poursuivra tant que le gouvernement ne sera pas revenu à la raison. Après la confirmation par le Premier ministre hier d'un âge d'équilibre à 64 ans, la contestation pourrait même s'amplifier. La CFDT a appelé à manifester le 17 décembre. Il y a de la place pour la négociation, a répété ce matin le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Cette question de l'âge d'équilibre n'est pas tranché, assure de son côté Gilles Legendre, le patron des députés de La République En Marche. Banco, lui répond Laurent Berger, qui se dit d'accord pour en rediscuter, en rappelant que son syndicat soutient le principe du système à points, mais il y a cette réforme paramétrique portant sur l'âge qu'il juge inutile et injuste. Alors Hélène Philly, de quoi s'agit-il précisément?
Alors, il faut que le système universel soit équilibré financièrement. C'est un point sur lequel le Premier ministre a insisté hier. Et de son point de vue, ça veut dire travailler plus longtemps. La question est d'abord renvoyée aux partenaires sociaux, à eux d'en définir les modalités, mais s'ils échouent, c'est la loi qui fixera les règles. Et Édouard Philippe a dit comment hier? Un âge pivot sera créé dès 2022, assorti d'un bonus-malus. Vous partez avant, vous aurez une retraite moins importante. Si vous travaillez plus longtemps, vous aurez une surcote. Cet âge d'équilibre sera fixé à 62 ans et 4 mois en 2022. Il augmentera ensuite progressivement de 4 mois tous les ans pour arriver à 64 ans en 2027. Pour Laurent Escure de l'UNSA, tout ça c'est négocier le couteau sous la gorge.
Ce qu'on demande nous au Premier ministre, c'est qu'il puisse confier à la gouvernance en effet le fait de trouver une trajectoire d'équilibre, mais qu'il ne dise pas quelle est la fin du match. C'est-à-dire que là on a le sentiment qu'on nous dit vous avez la main, mais voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Et donc faire travailler les Français à partir de 2022 plus longtemps, alors qu'on est en train de faire une réforme systémique, c'est pas possible.
Voilà Roland Escure ce matin sur France Inter. Alors ce système d'âge d'équilibre est déjà en place avec Agirc-Arrco, mais de façon différente, d'où sans doute l'erreur commise ce matin également sur France Inter par la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Elle répond à Léa Salamé et tente d'expliquer le système du bonus-malus.
Aujourd'hui, on travaille déjà un peu plus que l'âge légal. Ce que nous voulons faire, c'est dire en toute transparence le moment où il y a du malus et le moment où il y a du bonus.
Et ce sera 64 ans.
Et ce sera 64 ans.
Si je pars à 62 ans, le malus de 5%, je le paye jusqu'à 64 ans seulement ou je le paye sur toute ma retraite?
Non, vous payez jusqu'à 64 ans.
Eh bien non, la porte-parole du gouvernement a dû se corriger un peu plus tard dans la matinée, car à la différence du système Agirc-Arrco dont on parlait tout à l'heure, où la décote ne dure que 3 ans, ici, si vous partez avant 64 ans, vous subirez un malus pour toute la durée de votre retraite.
Hélène Philly, bref, le compromis était à portée de main, répète Laurent Berger dans Les Échos ce matin, le balayer pour des raisons de dogmatisme budgétaire est une profonde erreur. Le secrétaire général de la CFDT qui donc appelle à rejoindre la contestation le 17 décembre. D'où cette question que tout le monde se pose depuis l'intervention du Premier ministre hier midi. Pourquoi ce choix d'aller au clash avec les syndicats réformistes Yael Gauz, alors que le gouvernement pouvait diviser le mouvement social et affaiblir les grévistes? Il semble avoir fait le choix de jouer l'opinion contre les syndicats.
Oui, c'est ça Yves. Ni vainqueur ni vaincu, disait hier Édouard Philippe, la main sur le cœur. Mais l'âge pivot est bien au cœur d'une stratégie parfaitement assumée et concertée depuis le dîner de mardi soir à l'Élysée. Double calcul politique. Laisser de côté le déficit, dit un ministre présent ce soir-là, c'était risquer le procès en laxisme. Quelle crédibilité si on dépense sans dire comment? La droite, Xavier Bertrand notamment, attend Macron au tournant. L'enjeu, confirme un haut responsable de la majorité, c'est d'assécher définitivement les Républicains. S'ils n'ont plus les retraites, ils n'ont plus rien. Fermer cet espace à droite à court terme, donc, pour ne pas rater la marche ensuite de 2022. C'est le deuxième calcul. Car d'une manière ou d'une autre, concession faite à Laurent Berger ou pas, cette question du financement serait revenue comme un sparadrap. Ne pas la traiter maintenant, estime un ministre, c'était voir revenir le sujet en boomerang en 2020, en 2021, à l'occasion des débats de finances au Parlement. On ne va pas refaire deux fois la réforme des retraites, argumente un conseiller, trop risqué à l'aube de l'élection présidentielle. D'où l'arbitrage final, le socle de droite, plutôt que la CFDT, au risque de rouvrir un front uni à gauche.
Yael Gauz, quoi qu'il en soit, pour gagner la bataille de l'opinion, maintenant il va falloir beaucoup de pédagogie et surtout être plus précis. Le diable est dans le détail, on le sait, pour les enseignants notamment, mais aussi pour les policiers. Ceux qui sont exposés à des missions dangereuses garderont leurs avantages, a souligné le Premier ministre en pensant les rassurer. Ce qui n'a pas été le cas si l'on en juge à la réaction de ce policier de 33 ans, directement concerné par la réforme, et bien décidé à continuer à manifester. Il est au micro d'Olivier Leroy.
C'est pas clair. Ce qui est dit, c'est absolument pas clair. On dit en gros ceux qui occupent des fonctions à risque. Mais qu'est-ce que ça veut dire une fonction à risque? Le policier qui fait l'accueil du public, il est soumis aussi à un risque. On l'a vu dernièrement avec les attentats, etc. Comme ceux qui sont sur le terrain tous les jours. Il y a des policiers qui font toute leur carrière dans le même service. Mais il y en a beaucoup qui voient plusieurs choses. Il y en a qui sont mutés, il y en a qui changent de service. Donc c'est très compliqué d'être par exemple sur le terrain toute sa carrière. D'autant plus qu'avec l'âge, comprenez bien qu'à 50 ans, c'est compliqué de courir après les voleurs. Si on nous dit que uniquement ceux qui occupent des métiers dangereux auront l'intégralité de leur retraite, à ce moment-là, bah, tous les gens vont fuir et il n'y aura plus assez de monde pour faire tourner les commissariats. En rentrant policier, on sait qu'on a un statut spécifique, donc effectivement, ça nous motive à rentrer dans la police. Là, maintenant, effectivement, si aujourd'hui on nous enlève ce statut-là, moi, franchement, si c'est à refaire, je ne sais pas si je rentrerai dans la police.
Voilà, la mobilisation se poursuit donc. Ce matin, de nombreuses actions surprises ont été engagées un peu partout, des défilés à Grenoble, Limoges, Reims ou Nantes, des barrages en Seine-Maritime, le port du Havre est notamment bloqué par des manifestants qui ont fait brûler des pneus, deux écoles ont été évacuées, on ne passe plus non plus sur le port de Marseille, des barrières de péage ont été ouvertes en Avignon, la distribution du courant interrompue quelques instants dans la région de Béziers et dans la région de Lille, où un centre commercial a été plongé dans le noir, des dépôts de bus bloqués à Paris ce matin ont été finalement dégagés par les forces de l'ordre, mais les prévisions de trafic restent inchangées à Paris où 10 lignes de métro sont fermées. Même chose à la SNCF, situation inchangée sur tout le territoire avec un TGV sur 4 en moyenne et 4 TER sur 10. Des difficultés qui pourraient donc perdurer peut-être jusqu'après les fêtes. À l'étranger, une étape décisive vers le Brexit à Londres ce jeudi. Peut-être les Britanniques sont appelés aux urnes pour des législatives anticipées. Ils ont à choisir entre la sortie de l'Union avec Boris Johnson ou bien un deuxième référendum avec les travaillistes de Jeremy Corbyn. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 22h. Les résultats sont très indécis si l'on en juge au sondage. Et puis on vote aussi aujourd'hui en Algérie pour désigner un successeur au président déchu Bouteflika. Après pratiquement 10 mois de manifestations, les 5 candidats en lice sont tous par avance rejetés par la rue. Ce matin, 2 centres de vote ont été saccagés en Kabylie. Savoir si les Algériens vont prendre au sérieux cette consultation. Le vrai test, ce sera la participation au scrutin. Premier élément de réponse dans ce bureau de vote d'Alger où vous avez passé la matinée, Mathilde Dehimi.
Pas beaucoup d'affluence dans ce bureau des femmes. 3000 inscrites, elles viendront plus tard, assure le responsable. Aïcha a l'index bleu d'encre, sa carte d'électrice à la main et des accents très patriotiques. Mon pays, c'est mon pays, l'Algérie, dit-elle. J'aime le peuple algérien. On ne doit pas laisser l'occasion à des pays étrangers de nous dicter ce que l'on doit faire, parce que si l'on ne vote pas, on leur donne la chance de venir nous coloniser une nouvelle fois. L'essentiel, bon président ou non, c'est qu'il soit algérien. Difficile de savoir vers quel candidat vont se tourner ceux qui ont voté. Il n'y a pas de sondage ici. 5 candidats, dont 2 anciens premiers ministres et un ministre d'Abdelaziz Bouteflika, Saïd, 74 ans.
Eh ben, j'ai voté, en espérant que ça va mieux y aller. J'ai fait mon choix, c'est pas bon. Comme on le dit, on a un petit proverbe qui dit « Quoi choisir dans les enfants de la truie ?»
Dehors, devant le bureau, des passants crient non au vote. Certains observent et surveillent ce qui se passe à l'intérieur. En contrebas, une foule de manifestants descend vers la Grande Poste, lieu de ralliement de tous les opposants au régime. Alger, Arthur Gerbeau, Mathilde Dehimi, France Inter.
En bref, à Mayotte, 3 enfants de 4 ans retrouvés morts dans une voiture hors d'usage, stationnée en bord de route et dans laquelle ils étaient allés jouer, se retrouvant bloqués par la sécurité enfant. Ils sont possiblement morts de déshydratation, les températures atteignant les 35 degrés ces jours-ci à Mayotte. 30 ans de prison requis contre Moussa Koulibaly, un mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, celui que l'avocat général appelle le pionnier des attaques au couteau, avait blessé 2 militaires en faction devant un centre communautaire juif de Nice. Avant d'être maîtrisé, la scène avait été filmée par des caméras de surveillance. Willy Bardon, incarcéré dans un établissement pénitentiaire des Hauts-de-France, hospitalisé au CHU d'Amiens après sa tentative de suicide en plein tribunal, le meurtrier d'Élodie Kulik, condamné à 30 ans de prison, a donc réintégré sa cellule, où il fera bien sûr l'objet d'une surveillance particulière. Et puis c'est Tahiti qui accueillera les compétitions de surf des JO de Paris. L'île de Polynésie était en concurrence avec Biarritz, la Canada, Osgore et la Torche en Bretagne. Pour le comité d'organisation des JO, c'est à Tahiti que les vagues ont toutes les chances d'être les plus belles à l'été 2024. Tant pis donc pour la distance. À 13h10, c'est la fin de ce journal raccourci pour cause de grève à Radio France.